Baltes et en Pologne, la militarisation du pays s'accélère. Nous irons en reportage avec les nouveaux conscrits, mais d'abord direction l'Italie.
Midi 10 sur la Clé des Andes, vous écoutez le Plat de Résistance et comme chaque vendredi dans ce Plat de Résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra. Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
L'invité.
Voilà, donc pour cette invitée, c'est la nouvelle livraison de la revue Casserole, celle de février-avril, le numéro 27. Et donc, le dossier, c'est Femmes et ruralité que nous présentait Esmeralda. Et donc, je vais commencer par le début de la revue qui commence par 6 voire 8 articles sur le drame palestinien. Le premier article nous invite à revenir sur l'histoire, une histoire qui n'a pas commencé le 7 octobre et qui rappelle que masquer l'histoire des autochtones avant l'arrivée des colons est une façon de déposséder un peuple. Ainsi, on commence l'histoire des Amériques avec l'arrivée des colons britanniques pour nier l'histoire des Amérindiens et ainsi s'approprier leurs terres. Le premier article, quand même, est assez long, de 3 pages. Il remonte jusqu'au 19e siècle, aux exactions dans les communautés juives en Europe, en Russie, puis aux origines du sionisme politique et nationaliste avec Herzl, puis le projet de trouver un foyer garanti par le droit public pour le peuple juif en Palestine, qui convient aux antisémites comme Balfour, le premier ministre du Royaume-Uni, qui préfère voir les juifs en Palestine plutôt qu'en Grande-Bretagne. Et puis la colonisation commence dès le XXe siècle, d'abord par le rachat de terres, il nous dit, puis après tout un lot avec l'expulsion des fermiers métayers, déjà, et une longue oppression avec son lot d'expulsions, d'exécutions, de promesses non tenues, de checkpoints, de silences internationaux, qui ne pouvaient aboutir qu'au drame du 7 octobre 2023 et sa dramatique suite, bien au-delà du œil pour œil, dent pour dent, dans une guerre asymétrique. Ça, c'est le premier article. Suit un témoignage d'une militante pacifiste israélienne, confrontée directement au 7 octobre et à la mort de proches dans le kibbutz Be'eri. Elle nous dit ses actions, ses interrogations et son engagement continu. Allait-elle continuer à accompagner les Palestiniens pour assurer un tant soit peu leur sécurité? Et c'est cette opposition collective à la guerre, dans la solidarité, qui donne la force de continuer à accompagner les familles palestiniennes qui ont vu leur maison détruite par l'armée israélienne et les colons. Ensuite, on a la présentation d'un ouvrage anti-sionisme, une histoire juive, l'ouvrage de Béatrice Orez, Michel Siboni et Sona Feldman, toutes trois membres de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix.
Oui, l'ouvrage qui a été présenté à Bordeaux, à Talence, à la librairie Georges, en janvier. Oui.
Voilà, donc il revient sur les amalgames, anti-sionisme, antisémitisme, entre juifs sionistes et Israël, etc. Voilà, il donne beaucoup la parole à de nombreux juifs et juives antisionistes. Mmh. Voilà. Il y en a aussi un poème de Refat Al-Harir, un poète palestinien assassiné donc par l'État d'Israël la nuit du 7 au 8 décembre lors d'une frappe à Gaza. Et il illustre un message, Peace in Palestine. Si je dois mourir, tu dois vivre pour raconter mon histoire. Le poème continue. Si je dois mourir, que ce soit porteur d'espoir, que ce soit un conte. C'était en novembre 2023. Un autre petit article nous annonce la mort de Noël, car ses parents sont morts sous les bombes. Il tente de rire pour ne pas pleurer. Mais il se termine par quelques phrases de personnalités médiatiques en France qui expliquent que la mort des enfants palestiniens, ce n'est pas pareil. Et dégueulasse, conclut-elle. Oui, dégueulasse, comme c'est Catherine Forest et Bernard-Henri Lévy. Et puis, il y a un autre cri du cœur d'une manifestante dans le Limousin, qui s'indigne d'avoir subi le matraquage médiatique en France, qui lui disait que la vie israélienne avait plus de valeur que la vie palestinienne, sans que cela suscite plus d'indignation. Voilà. Et elle rappelait, le mal ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. C'est une phrase à ne pas oublier d'Albert Einstein. Puis ensuite, il y a un texte du GLUP, le groupe Limousin de l'Union Pacifiste, qui s'adresse à l'orphelin emblématique du monument de Janssou. Il revient sur les discours guerriers du président français, qui en appelle toujours à la légitime défense. Et il rappelle que quand un pays en occupe un autre, il construit forcément la révolte. Un pays colonisateur repose sur le terrorisme, Israël agit en terrorisme, et fidèle au pacifisme, il nous invite à ouvrir les yeux et à abolir l'armée. Ce qui donne du grain à moudre à la campagne Stop Arming Israël pour l'arrêt des ventes d'armes à Israël. Notons aussi que le gouvernement essaye d'accélérer l'embrigadement de la jeunesse avec les uniformes à l'école, mais surtout avec le déploiement du SNU, le Service National Universel, dans les établissements scolaires. Voilà, et le dossier femmes et ruralité, lui, se termine aussi par la rencontre d'une militante solidaire des Palestiniens avec un couple de paysans palestiniens près de Tul Karem en Cisjordanie. Mm-hmm. Voilà, et ça c'est la fin du dossier, mais tu vas nous raconter le début du dossier.
Voilà, le début du dossier, puisque le principe de Casserole, c'est toujours un dossier central, mais il y a avant et après toute une série d'articles très intéressants, oui. dont tu viens de faire écho... et qui sont liés aussi à l'actualité. Alors, ce dossier femmes et ruralité, en fait, on pourrait se dire, ah ben, quel opportunisme, justement, mais pas du tout, parce qu'en fait, les dossiers de Casserole sont préparés très longtemps à l'avance, et ce dossier était déjà annoncé l'été dernier. Bon, donc, voilà. Dans l'édito est dédié à la question palestinienne et la situation à Gaza, mais il se termine tout de même par « Femmes rurales, nous ne laisserons pas la campagne aux hommes ». Bon, c'est le cri du cœur de Casserole. Donc on a préparé avec Progrès un petit parcours là sur au gré du dossier, sur 6 articles. Il y en a qui sont très plaisants, humoristiques, et d'autres qui sont sérieux, bien sûr. Alors, le premier, en guise d'introduction plaisante, c'est « Ça t'évoque quoi, toi, la ruralité ?» Et alors, donc, l'autrice de l'article dit « Eh bien, à moi, voilà ce que ça me raconte. Il est tout mignon, ce mot, la ruralité. Il m'évoque la campagne, fleurs bon, le terroir, les champs dans lesquels on a envie de se rouler, les jolies vaches qui nous regardent placidement quand on passe à vélo, à pied, etc. etc. » Et elle dit, pour d'autres, ça évoque l'ennui, les cutéreux, les bouseux et les bouseuses, les bouses de vache, la bouillasse, l'odeur du purin ou du fumier, des kilomètres à parcourir pour acheter du sel, etc., etc. Ça donne quoi, concrètement, la vie à la campagne et la ruralité ? Ben, en ruralité, où chez les bouseuses, l'autrice nous dit, ben, on se connaît, on se soutient. Il y a de l'entraide et du réseau. Elle a une vision assez belle et optimiste de la situation. Elle dit on monte des projets, des assos, on s'invite dans des collectifs, on réfléchit ensemble sur un tas de trucs. L'écologie, l'école, le capitalisme, les luttes sociales, les violences faites aux femmes et aux minorités, la mort, la contraception, l'éducation. On fait de la radio. Certains sont des vrais artistes, pleins de talents. On monte des cafés associatifs et des lieux de spectacle, et etc. Donc, bon, ça donne envie d'y aller. Bon, c'est le premier article pour une mise en apéritif. Un deuxième article que l'on a sélectionné, bon, qui est plus sérieux, Paysanne, il s'intitule Paysanne, et là, il apporte des chiffres et des constats. Il nous dit que, de fait, les femmes ont toujours été présentes sur les domaines, les fermes et les exploitations, mais le plus souvent sans titre de propriété et sans aucun statut, et que le statut de l'exploitante ou de co-exploitante ne date que de 1980. C'est vraiment avant, la fermière était la femme du fermier, voilà, et elle bossait gratos.
L'article nous dit que... Elle bossait double.
Eh bien oui, eh oui. Absolument, voire triple. L'article nous dit qu'il y a chez les paysans, comme chez les sportifs et beaucoup d'ouvriers, le culte de viriliste de la force physique. Et aujourd'hui, pourtant, les femmes sont quand même 30%, entre 30% et un quart des co-chefs d'exploitation, alors qu'en 1970, elles n'étaient que 8%. Il y a une certaine évolution. Et plus de la moitié des élevages et des activités autour des chevaux sont tenus par des femmes, et elles sont plus engagées dans la production sous label et l'agriculture bio. que les hommes. Il y a 13% de plus que chez les hommes. Et elles pratiquent davantage la vente directe. Et en dehors de l'élevage, aussi, elles sont très nombreuses dans le monde de la viticulture. Elle dit, mais l'article remarque qu'en revanche, et sans surprise, dans les instances de pouvoir du monde agricole, ben, elles peinent à s'incruster, hein, que ce soit dans les syndicats, dans les coopératives, ou dans les instances représentatives du monde de la paysannerie. Un autre chiffre, dans 1946, les paysans étaient 10 millions en France, et maintenant leur nombre est tombé à 800 000. C'est assez foudroyant comme chute. Bon, c'est vrai qu'il y a des regroupements, des exploitations qui ne sont plus exploitées ou qui sont rachetées, intégrées à des unités plus importantes. Et les femmes, bien sûr, ben, elles gagnent moins que les hommes, elles gagnent 29% de moins que les hommes. Voilà, bien que majoritairement, elles soient plus diplômées, nous dit l'article. Un autre article sérieux également sur agroécologie et retour aux sources, avec une citation d'une paysanne basque, enfin une paysanne, oui, du Pays basque espagnol, qui fait partie de Villa Campesina, et qui nous dit que dans l'histoire, les femmes ont été au fondement de l'agriculture. C'était les femmes qui faisaient le plus gros du travail dans les champs, parce qu'on les cultivait, ces champs, pour nourrir les familles. Et puis, quand les machines sont arrivées, que ça a cessé d'être un travail collectif, eh bien, les hommes ont pris les rênes de ce travail, particulièrement avec des machines, des tracteurs. Alors, les femmes, oui, sont incluses, mais il y a toujours plus d'hommes que de femmes dans les champs. Alors, il y a toute une analyse disant qu'il y a eu une dépossession séculaire qui s'est faite par la privatisation et la confiscation des terres au fil des siècles. D'abord lors du mouvement des enclosures, qui a fini par se répandre dans toute l'Europe. Et c'est un mouvement qui a consacré l'anéantissement des communs. Et que ça a été terrible pour la petite paysannerie et également pour les femmes, et surtout pour les femmes. Donc on a constaté une régression violente de la condition féminine. Et maintenant, nous dit l'article, eh bien, les femmes vont reprendre les choses en main, et notamment en ce qui concerne justement l'utilisation des machines, puisque la machine est reine. Alors, elles sont à l'origine ces machines conçues pour les hommes, et des hommes du genre viriliste, très peu adaptés bien sûr pour la constitution féminine. Et là, les femmes, eh bien, elles ne vont pas s'adapter aux outils, elles vont adapter les outils à leur morphologie, à leurs besoins. Alors donc, elles se sont regroupées autour d'une coopérative d'autoconstruction qui s'appelle l'Atelier Paysan, et elles vont créer et transformer des outils qui vont devenir adaptés. Elles ont également initié des ateliers non mixtes, là aussi, pour libérer la parole et se ressaisir de la réalité. Elles mènent des réflexions interactives. Quelles sont les fonctionnalités essentielles d'un outil. Donc elle repense complètement la manière de s'atteler. Non, la manière d'utiliser toutes ces mécaniques. Voilà. Et pour les femmes de Villa Campesina, pour revenir à la citation du départ, dans le monde entier, l'agroécologie est indissociable du féminisme. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, vous n'avez qu'à lire l'article, vous abonner au numéro Casserole. Un petit article aussi très savoureux, c'est « Femmes et patronnes ». Alors, l'article commence, « Le machisme ras les sabots », il règne encore dans les campagnes. Alors, donc, il y a 5 jeunes paysannes, en polaire et en colère, car fatiguées de se heurter au machisme du milieu agricole, elles ont décidé d'y répondre en créant un collectif. Et ce collectif s'appelle les Paysannes en polaire. Elles ont publié une bande dessinée pour raconter leur déboire. La bande dessinée s'appelle « Il est où le patron ?» Chronique de paysannes, parce qu'elles ont remarqué que quand il y a des livraisons ou des personnes qui arrivent d'extérieur, même si elles sont en train visiblement de travailler, on dit « Mais où il est le patron ? Il est où le patron ?» Bon, voilà. Donc c'est un vrai documentaire sur les femmes qui ont choisi l'agriculture comme un métier, et c'est un message féministe également. Voilà, donc vous pourrez, vous trouverez sur le site de l'émission tout ce qu'il faut savoir sur cette bande dessinée, Il est où le patron ? Et enfin, deux petits articles qui sont une sorte... l'un, non, mais l'autre, oui, je commence par l'un, non. C'est sur les secrétaires de mairie. Alors, c'est les secrétaires de mairie, c'est les femmes à tout faire, les femmes en ruralité. Parce qu'en fait, les secrétaires de mairie, elles sont à 94%, c'est des femmes, bien sûr, et qui font ce travail souvent à cheval sur plusieurs... Pas à cheval, mais... en lien sur plusieurs mairies, dans des communes de moins de 3500 habitants, et il y en a 23 000 en France. Alors ça fait un paquet de femmes qui sont secrétaires des mairies, avec un métier qui peut être passionnant, mais c'est, qui est terrible, parce qu'elles font tout, l'état civil, les renseignements, préparation des élections, arrêtés municipaux, etc., etc. Voilà, donc le petit article décrit tout ça, et qu'en plus, elles sont fort mal payées. Voilà. Et en plus, les deux tiers ont plus de 50 ans, donc elles seront bientôt à la retraite. Actuellement, il y a déjà 2000 postes qui sont vacants, et d'ici 10 ans, il y en aura 10 000 postes vacants. Alors, messieurs, si vous voulez postuler, et que les secrétaires de mairie ne soient plus des femmes à tout faire, mais des hommes à tout faire, bon, pourquoi pas
hein. Secrétaire, ça rentre bien, hein, c'est totalement inclusif.
Voilà. Et le dernier article que nous voulions évoquer avec Progrès, c'est la ruralité et l'IVG, mais on va parler tout à l'heure de l'IVG, mais avec des choses très bien vues par rapport à justement à la démocratisation de l'IVG, elle se pose des questions sur l'accès à l'IVG, parce que l'IVG par les sages-femmes, et 80% des IVG sont faites par des sages-femmes, doivent être tellement entourés de précautions, de médecins, d'anesthésistes, etc., qu'en fait, les IVG sont forcément effectuées dans des centres hospitaliers importants. Et évidemment, pour des femmes dans la ruralité, il y a des kilomètres à parcourir. Voilà, ce n'était qu'un survol de la ruralité et des femmes et ruralité dans ce dossier de casserole que vous pouvez... commandez, vous aurez toutes les données sur le site de l'émission et vous abonnez, bien sûr.
Débat d'actualité.
Alors, c'est peut-être à moi de parler ou c'est à Fabienne, je ne sais plus.
Non, mais je vais te passer la parole.
Oh oui, passe-moi la parole.
Donc, en fait, nous allons revenir dans un premier temps avec Rémi et dans un deuxième avec Esmeralda sur deux événements culturels militants qui se sont déroulés en février et que nous avions évoqués dans l'agenda de février. Donc, tout d'abord, Hugo Paglietta, une rencontre avec cet auteur à la librairie du Muguet. C'était la librairie du Muguet et l'OAB, c'est-à-dire l'offensive antifasciste Bordeaux, qui avait invité Hugo Paglietta et qui est auteur de 4 livres sur la fascisation. Et pour la Clé des Ondes, Rémi, tu étais présent.
Tout à fait.
Pour l'émission Les Clés des Savoirs. Et cette émission donc propose une heure avec le sociologue Hugo Paglietta. Donc nous y passerons pas une heure, mais donc à écouter ou réécouter le podcast qui est daté du 26 février sur le site de La Clé des Ondes. Les Clés des Savoirs, ça fait trop de clés pour moi, ouais. Ça. C'est tous les 4e lundi du mois de 20h à 22h. Voilà. Donc Rémi, tu étais donc présent. Peux-tu faire un retour sur, l'affluence, les questions de l'assistance, ton ressenti ?
J'ai envie qu'on écoute d'abord un petit peu et ensuite on va en parler. D'accord. Allez, c'est parti.
Allons-y.
Le deuxième aspect, c'est qui, à mon sens, est aussi assez évident, c'est la diffusion importante et la banalisation et la légitimation par des acteurs politiques et médiatiques centraux des idées, entre guillemets, d'extrême droite. Bon, des idées, des affects, des symboles, des images, etc. Leur banalisation dans le débat médiatique, dans le débat politique, dans le débat y compris intellectuel. Ça, je pense que, là encore, j'ai pas besoin de développer outre mesure, mais c'est pas simplement, comme on le dit souvent, dans l'empire Bolloré, l'empire médiatique en voie de constitution encore aujourd'hui, puisqu'il essaie encore de récupérer d'autres organes de presse, récemment avec le Journal du Dimanche, par exemple, où il a placé un ancien à sa tête de Valeurs Actuelles. Mais on le voit, y compris dans d'autres médias qui sont, pour l'extrême droite, des médias de gauche, je sais pas, les médias de Radio France, par exemple, et les radios France Inter. Donc, vous apprenez sans doute que c'est un grand média de gauche, très à gauche, voire d'extrême gauche. Hein, si on regarde les réseaux de la fachosphère sur Twitter, France Inter est une radio d'extrême gauche. Hein. Donc, vous l'apprenez, mais c'est la vision qu'ils ont des choses. Hein. Bon, bah, sur ces radios-là, on a très régulièrement, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans ou 10 ans, a fortiori, des représentants de l'extrême droite, y compris pas forcément très connus, hein, mais qu'on invite comme des personnes, comme n'importe qui. Et puis des chroniqueurs, des pseudo-journalistes, des pseudo-experts qui, de fait, appartiennent à l'extrême droite. Ça, enfin, faut mesurer à quel point c'est quand même assez nouveau. Il y a 10 ans, vous n'avez à la radio Marine Le Pen, Florian Philippot, éventuellement Marion Maréchal, etc. Je parle même pas, il y a 20 ans, on avait une fois de temps en temps, c'était Jean-Marie Le Pen à la télé. Bon, pour le reste, on les voyait jamais. Bon, il y a eu un truc qui a changé, mais radicalement. Je ne sais pas si à quel point on a mesuré ce truc-là, mais au cours des 10 dernières années, on a vu une banalisation de la présence.
Voilà, ça se termine comme ça. C'est juste un petit 2 minutes qu'on vous a sorti. Bien évidemment, vous pouvez aller sur laclédesondes.fr, vous tapez Hugo Paletta, La Clé des Ondes, et vous allez tomber sur donc une heure de conférence. Alors, quand tu m'as demandé comment ça s'est passé, quand on l'entend, c'est assez clair et précis. C'est-à-dire que Hugo Paletta est un sociologue, mais il est aussi militant, et il milite depuis des années au NPA, et dans toutes les luttes qui essayent de rassembler autour de l'antifascisme. Donc, le travail qu'il a réalisé est un travail assez construit, c'est-à-dire d'où sont les dangers. Donc, là, on est parti sur le deuxième risque, donc c'est sur les médias, parce que aujourd'hui on en parle, notamment le débat avec CNews, l'ARCOM, l'ex-CSA, c'est-à-dire comment déconstruire des télévisions qui sont d'extrême droite aujourd'hui, et on voit bien que c'est compliqué pour l'État, puisqu'il n'arrive pas à trouver de solution, mais ça démontre aussi la fascisation de la société. Le premier était évidemment le premier volet sur lequel il a discuté, c'est le développement des mouvements fascistes en Europe, qu'on retrouve partout, en Espagne, au Portugal, en Allemagne. Donc, il a amené un petit peu une forme d'exposé sur toutes les montées des fascismes, en tout cas, qu'il fallait bien prendre cette question au sérieux, et qu'en face, il fallait aussi développer des combats antifascistes. Alors, lui, son combat et son courant, c'est aussi essayer d'arriver à faire l'unité des luttes, l'unité aussi dans le travail contre les idées fascistes. Que dire de plus ? Que c'était quand même assez frais de l'entendre, parce que ça, il a donné la pêche. Il donne aussi, il finit en disant bon, voilà, c'est pas terminé, hein, l'affaire n'est pas faite, mais il montre un petit peu tous les écueils et toutes les responsabilités, notamment de Macron et de son extrême centre, qui justement font et construisent des autoroutes, pas uniquement entre Toulouse et Castres, mais entre droite et extrême droite. Voilà, donc où ça joue là-dessus. Et d'ailleurs, quand je t'écoutais, Philippe, justement sur la question du soutien à la Palestine, on voit bien à quoi joue aussi ce gouvernement en essayant de polariser les extrêmes sur ce sujet-là. Et on parlait aussi de la ruralité. Quand Macron dit c'est simple, c'est pas les soulèvements de la terre et c'est pas la coordination rurale, grosso modo, c'est pas un syndicat d'extrême droite et c'est pas l'extrême gauche qui doivent répondre aux questions et aux enjeux sociétaux face à la crise de la ruralité et de l'agriculture. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, Macron joue à ça. Ça, Hugo Paletta l'explique très bien. Et en tout cas, ça mesure aussi les résistances à construire face à cette fascisation de notre société que l'on voit au quotidien. Voilà, donc moi, j'ai terminé. S'il y en a qui voulaient en parler, mais on peut passer peut-être à un autre sujet qui est...
Ben, l'autre événement culturel militant donc, de l'agenda de février, c'était la soirée débat du 21 février à l'Utopia, les étrangers dans la résistance en France, donc à l'occasion de la panthéonisation de Missak Manoukian. La soirée était organisée par le collectif à la mémoire des résistants français, des résistants étrangers en France, 1940-1945, et c'était suivi d'un débat avec Bernard Lavallée, professeur d'histoire et spécialiste de l'histoire espagnole, Esmeralda Travé, présidente de l'Amicale des anciens guérillos espagnols FFI, et Manuel Diaz-Vaz, sociologue, vice-président de la Ligue des droits de l'homme Bordeaux, et j'oubliais, pardon, José Garcia, président de l'association Caminar, et Valentin Fernandez, membre du CMREF, donc le fameux collectif à la mémoire des résistants étrangers. Donc, Esmeralda, tu étais donc partie prenante du débat. Je t'ai cité. Peux-tu faire un retour sur un peu les mêmes questions que je voulais poser à Rémi et que j'ai posé à Rémi sur l'affluence, les questions d'assistance et ton ressenti à l'issue de cette soirée?
Oui, alors là, oui, il n'est question que de la soirée à l'Utopia, le film à 20h15, qui était s'intitulait Ni travail, ni patrie, ni famille. C'est un documentaire de Moscou Boukou. Sous-titre « Journal d'une brigade FTP Moy » et qui reprenait les témoignages de survivants de cette brigade qui avait contribué à la libération de Toulouse. Alors, mais ça, c'était le soir, mais c'était un des événements de la journée, puisque le matin, il y avait un hommage au pied du mémorial de la base sous-marine de Bordeaux, mémorial qui a été construit justement pour honorer le travail forcé des milliers d'Espagnols qui sont passés par la base sous-marine. Enfin, il n'y avait pas que des Espagnols, il y avait aussi d'autres travailleurs forcés au moment de l'occupation en France. Puis il y avait un autre hommage au monument de la résistance sur la dalle de Mériadec. Voilà, c'était trois événements qui étaient à Bordeaux et il y avait également des événements à Paris. Tout ça, l'idée c'était que à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Manoukian, c'était de dire c'est très bien, bon voilà, bon il est entré au Panthéon. Et il y a d'autres étrangers qui se sont investis en France par rapport à la résistance et pour la libération des forces nazies. Donc c'est pour ça que ce collectif s'est monté et a organisé aussi bien à Bordeaux qu'à Paris ces différents événements. Alors pour parler de la soirée elle-même, bon, à l'Utopia, la salle était pleine, bien sûr, la grande salle était pleine. Toutes sortes de personnes intéressées soit par les aspects de la résistance, soit par des aspects des étrangers dans la résistance. Au terme du film, beaucoup de questions que l'on avait laissées libres, de manière à ce que les gens puissent s'exprimer, puisque le matin on avait fait des discours qui étaient ciblés. Donc le soir, bon, c'était davantage l'expression, et puis avec des témoignages aussi, des personnes qui se sont exprimées avec beaucoup d'émotions. Donc c'était vraiment vraiment intéressant. Voilà. Alors je dois dire également, enfin le soir c'était davantage tous ces témoignages, donc on n'a pas pris la main ni les uns ni les autres pour dire voilà les étrangers dans la résistance, aussi bien les Espagnols, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce que les Portugais ont fait. On n'a pas ciblé cela, puisqu'on nous l'avions fait le matin, et que nous l'avions fait également à l'occasion d'une émission radio sur la clé des ondes. Ici, émission radio qui s'appelle Le Plat de Résistance. Alors c'est un clin d'œil de la part de nos amis, hein, de la clé des ondes, puisque l'émission a été diffusée en deux parties, le 14 février et le 21 février. Donc là aussi on peut écouter en podcast. Et là, les mêmes personnes là, du collectif, autour de cette même table ici, avaient expliqué l'engagement aussi bien des Espagnols que des Portugais et pourquoi cette journée était organisée. Voilà, donc, c'est vrai que le soir, on n'a pas expliqué le rôle des Espagnols qui ont joué un rôle très très important dans la résistance, parce qu'en fait ils sortaient d'une guerre, donc ils étaient
entraînés.
Malheureusement, ils étaient ils avaient au maniement des armes et des explosifs. Donc, même s'ils ont été excessivement mal accueillis en France et mis dans les camps de concentration, dès que quand ils ont pu en sortir, eh bien, ils se sont regroupés dans les maquis pour constituer des noyaux de résistance et contribuer à la libération, en particulier dans le sud-ouest, de nombreuses villes. Voilà. Et on peut parler aussi des réseaux. Il y a les réseaux de combat sur le front du Médoc, avec le bataillon Libertà, qui était donc les Espagnols des libertaires, aux côtés du bataillon basque Guernica. Et également, on a parlé, même le soir à l'Utopia, des réseaux d'évasion, très importants dans la résistance, et en particulier du réseau d'évasion de Francisco Ponzan, qui était un militant de la CNT, réseau qui a permis l'évasion de nombreuses personnes, 3000 personnes environ, dans les Pyrénées, dès 1940. Voilà.
Eh ben, merci pour ce retour.
Le prochain son, c'est une reprise, faut toujours en faire une. Du coup, ça remonte à 95. On va chanter tout ça ensemble, machin, tout ça. Ok, allez, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Libérez nos camarades, ouvrez la cage aux soixantenaires qui fassent des promenades, du jardinage et du bricolage, des naufragés et puis du sport et aussi du soutien scolaire, qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Les machines s'envoient en l'air dans l'église, qu'elles parlent fort. Attends, nous mettre minables au Scrabble, qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes aux pommes ou qu'elles glandouillent au soleil si elles ont un peu la flemme. On s'arrêtera pas là, on veut entendre les cris de joie dans les parcs en été, des quinquas libérés, les cheveux gris au vent, courant à poil vers le devant, qui puissent écrire et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Les vulves assassines, la retraite. Donc c'est un groupe électro-punk rap français, féministe, qui est devenu une référence incontournable des luttes sociales. Elles ont sorti leur premier album en octobre 2019 et leurs chansons abordent des sujets de société, précarité, féminisme, toujours avec une dose d'humour et une énergie punk qui balaye tout sur son passage. Vous savez que ça nous a redonné la pêche si on avait plutôt tendance à s'endormir. Vous écoutez Achaïra, émission de pollinisation libertaire sur la clé des ondes, 90.1.
C'était un passage de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires, diffusée en direct sur notre antenne le premier lundi du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez en intégralité sur notre site laclédesondes.fr.
Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'ai envie de vous dire que vous êtes sur la clé des ondes.
Écoutez La Clé des Ondes sur le 90.10 et sur laclédesondes.fr. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
Traca, 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 matraca. Traca, 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 matraca. Traca, 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 matraca. Bihotza taupadaka nire soinua bultzaka. Traca, 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 matraca. Traca, 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 matraca. Traca, 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 matraca. Bihotza taupadaka nire soinua bultzaka. Dena doa presaka nire burua biraka. Lainoak nire zeruan gorputza dardarka. Hauxe nire marka azken guda danta. Arantzak bihotzian aizu eizu dantza. Nizure zalantzaz makizunen trampa. Kanta berrien andramari emangoen aurka. Txakurrak zaunka, txerriak oinka. Kalea murrukarak uprez gure erronka. Nonda zein da nik zer norzu. Herriaren erantzuna badakigu. Nonda zein da nik zer norzu. Traka mataka izer dian dara. Bere platerrean jan eta jan. Tan, 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 taka sirimiria. Pim, pum, pan, gora gazteria. Kolpez, kolpe, eiten da bidea. Traka, matraka, eutxiz gure askatasuna. Nonda, zein da, nik zer norzu. Herriaren erantzuna badakigu. Nonda, zein da, nik zer norzu. Traka, matraka, izer dian dara magu. Nonda, zein da, nik zer norzu. Herriaren erantzuna badakigu.
like my tongue's all in a twist. In my boots shaking, for a story never ends or even exists. How you'd like to, therefore I invite you for a ride with chips on the side. It's wrong here to insist. Seems like I'm dancing the nimblest, trotter's jig. Yeah, the humidity's rising. My guts keep on reminding me I'm bold. No luck to behold. No, I'm sealing a kiss. In my boots shaking, for a story never went or even exists. How you'd like to, therefore I invite you for a ride. We'll go to the sea and dampen our
matin, début de semaine, comme envie de me baffer. Raconter mon week-end devant la machine à café. J'suis dans les visiteurs, ouais, j'comprends pas mon époque. Non, bientôt c'est 18h, ouais, c'est l'heure de l'afterwork. Les apéros sont de plus en plus longs et les réveils sont de plus en plus durs. Plus ça va, plus j'y vais à reculons. J'me dis que ce sera sûrement mieux dans le futur. Mais j'ai mon cours de crossfit à la fin de la journée pour me décharger. On me gueule dessus et je profite même si je finis à deux doigts de gerber. Une heure par jour bloqué dans les bouchons. Poto, je t'avoue, ça rend chaud. Ma gosse demande pourquoi quand je rentre, je suis ronchon. Je lui prends la tête pour pas grand chose. Chérie, tu sais, je fais tout ça pour les gosses. Mais je les vois peu pour être honnête. Demain, j'irai les chercher à l'école, mais j'ai peur de pas les reconnaître. Quand j'étais petit, je voulais être artiste, devenir une idole. J'y pense le midi en ouvrant le plastique des barquettes de Lidl. Je pourrais faire des millions dans une boîte aux States. Des émissions, choper la grosse tête. Mais j'ai l'impression d'être d'une autre espèce. Je suis en prison dans un open space.
Ouais, en même temps, personne te bloque la porte, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Si tu veux te barrer, tu te barres. Non, t'as raison, mais si tu veux faire du son, tu fais du son. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Si tu veux faire du rap, tu fais...
Pour me rassurer, je lis mon horoscope. Envie de me fumer pendant la post-clope. Je répète, je vais bientôt partir, mais je reste. Je construis ma vie sur un tas de prétextes. Je sais pas comment j'en suis arrivé là. Même pas 30 ans, l'impression d'être âgé. Comme quand tu rentres trop bourré chez toi et que t'as plus aucun souvenir du trajet.
C'est en allant dans le Limousin avec Pierre qu'on a découvert.